Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, Ban Ki-moon se rend en Irak, le Conseil de sécurité examine l'impact de Boko Haram, la FAO lance un appel de 121 millions de dollars pour la Syrie, examen de haut niveau des progrès réalisés au cours de la décennie de l'eau, source de vie, en dossier le PAM appelle à faire preuve de solidarité avec le peuple syrien, enfin dans Fréquence Santé, coup de projecteur sur les maladies tropicales. Après sa participation au sommet de la Ligue des États arabes ce week-end à Sharm el-Sheikh en Égypte, où il a appelé les pays arabes à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, Ban Ki-moon est en Irak ce lundi pour souligner le plein soutien continu de l'ONU à la promotion de la paix, du développement et des droits humains dans le pays. Le secrétaire général de l'ONU a notamment reconnu l'engagement des dirigeants irakiens en faveur de la réconciliation nationale et a fait part de ses préoccupations face à l'impact de la crise sécuritaire sur les civils.
Au cours des réunions d'aujourd'hui, nous avons examiné les progrès des opérations militaires en cours pour libérer les zones sous le contrôle de Daesh, y compris les plus récentes autour de Tikrit. J'espère que d'autres zones et le reste de la région seront bientôt libérées de la menace de Daesh. Les gens ont connu un nombre inadmissible de morts en raison de cette nouvelle vague de violence, qui comprend de la violence sexuelle et sexiste. Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées. Les communautés minoritaires, les femmes et les enfants, demeurent particulièrement affectées. Les trésors culturels de l'Irak n'ont pas été épargnés. Je condamne fermement la destruction des sites archéologiques à Hatra, Nimroud et ailleurs. Nous devons nous unir pour protéger le patrimoine commun de l'humanité.
Retour au siège où le Conseil de sécurité a examiné ce matin l'impact des activités de Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Devant les 15, le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest s'est félicité du fait que le groupe n'était pas parvenu à interrompre ce week-end le processus électoral au Nigeria. L'ONU est en train de renforcer sa présence dans la région pour aider les pays concernés à contrer un fléau qui a provoqué le déplacement de 1,5 million de personnes. Depuis 2014, plus de 7000 civils ont été tués lors d'attaques lancées par Boko Haram dans le nord du Nigeria et le groupe n'hésite pas non plus à utiliser des enfants comme boucliers humains ou kamikazes. On écoute Mohamed Ibn Chambas.
The military approach alone will not suffice to contain the Boko Haram.
Une approche militaire ne permettra pas à elle seule de contenir la menace de Boko Haram. La communauté internationale peut et doit jouer un rôle important pour aider les pays de la région à répondre aux défis sociaux, économiques et politiques qui sont associés à Boko Haram. Il sera donc essentiel de donner suite aux opérations militaires actuellement lancées par les pays de la Commission du bassin du lac Tchad avec des mesures de stabilisation et de rétablissement de l'autorité de l'État.
Afrique, toujours avec la RDC, l'antenne provinciale de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée qui vient d'être inaugurée dans la commune Makisso à Kisangani en province orientale. L'ouverture de cette antenne de la Commission nationale intervient alors que la ville de Kisangani connaît une multiplication de cas de braquage et de vols à main armée. Pour le PNUD, l'installation de ce bureau est importante pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Reportage d'Aliana Alipanagama.
L'implantation de ces bureaux à Kisangani est salutaire pour la population. Elle est tombée à point nommé en ce moment où la ville connaît une recrudescence des cas de braquage, violence et vols à main armée. Cécile Pellot, associée en suivi et évaluation du bureau pays PNUD, l'a souligné.
L'inauguration de cette antenne de Kisangani est donc un maillon important de la chaîne de sécurisation de personnes et de leurs biens, de la restauration de l'autorité de l'État, de la consolidation de la paix au niveau communautaire et provincial, la restauration de l'autorité de droit et de la paix, la garantie de la sécurité et du respect des droits humains, favorise la circulation des personnes qui ne vivent plus dans la peur, voire dans la terreur.
À noter qu'en février dernier, le gouvernement provincial avait lancé l'opération dénommée « Armes contre une prime spéciale » dont les soucis de réduire l'indice de la violence armée dans la ville de Kisangani et ses environs immédiats. Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Kapi.
La crise en Syrie a gravement compromis la production agricole et le commerce est plongé dans l'insécurité alimentaire quelque 9,8 millions de personnes. C'est ce qu'a déclaré ce lundi l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU à la veille de la troisième conférence humanitaire internationale des donateurs pour la Syrie qui se tiendra au Koweït le 31 mars. La FAO qui a lancé un appel d'urgence de 121 millions de dollars pour stopper la détérioration de la situation et l'interruption des chaînes alimentaires régionales. Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation au sein de la FAO.
Depuis le début du conflit, on a vu ni plus ni moins qu'une diminution de l'ordre de 50% des productions tant vivrières que des productions animales. Ce qui signifie que la Syrie, qui était jusqu'alors un pays qui produisait des quantités importantes de céréales, de l'ordre de 4 millions de tonnes par an avant la crise, en est à l'heure actuelle à produire moins de 2 millions de tonnes, ce qui est évidemment catastrophique pour les populations et qui requiert un soutien urgent. Le secteur de l'élevage également est fortement affecté, puisque les populations d'éleveurs ont été fortement affectées, et notamment suite au manque de produits vétérinaires, au manque d'aliments pour bétail, ce qui conduit évidemment à de fortes perturbations du secteur.
Cette année 2015 marque la conclusion de la décennie internationale d'action sur le thème « L'eau, source de vie ». Si des progrès notables ont été réalisés pour promouvoir l'accès à l'eau et à l'assainissement, 1,8 milliard de personnes vivent dans des pays qui feront face à une pénurie d'eau d'ici à 2025. Pour examiner comment les enseignements tirés de cette décennie pourront assurer une gestion durable de l'eau dans le cadre d'un nouvel agenda pour le développement, l'Assemblée générale a organisé ce lundi un dialogue interactif auquel a notamment participé le vice-secrétaire général Jan Eliasson.
Nous nous réunissons à un moment où les catastrophes à la fois artificielles et naturelles s'intensifient. Les sécheresses, les inondations et les ouragans sont de plus en plus fréquents et extrêmes en raison du changement climatique. D'après les tendances, les pressions qui en résultent ne feront qu'augmenter. En 2025, les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans les conditions de stress hydrique. En 2050, la demande mondiale de l'eau va augmenter de 40%. À l'heure actuelle, l'assainissement est une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. 1 milliard de personnes sont toujours contraintes de déféquer en plein air. 2,5 milliards de personnes manquent d'un assainissement adéquat. Leur santé et leur dignité sont en jeu. La situation est critique, mais nous savons qu'elle peut changer.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec la Syrie. À la veille de la conférence des donateurs pour ce pays, le PAM appelle à la solidarité internationale pour venir en aide aux victimes de cette crise. Les enfants syriens ont passé le cap critique des 1000 jours en situation de conflit sans accès à une nourriture adéquate. Le PAM estime avoir besoin d'1,5 milliard de dollars pour poursuivre ses activités en Syrie, mais aussi dans les 5 pays voisins où près de 2 millions d'individus ont trouvé refuge. Joël Eid, porte-parole du PAM en Jordanie, est au micro de Tsige Chiferao.
Le but, c'est de mobiliser la communauté internationale pour assister près de 6 millions de Syriens dans la Syrie et dans la région cette année, qui ont besoin de la nourriture chaque mois.
En termes d'argent, vous avez besoin d'une aide de combien, oui, si vous deviez quantifier tout ça?
On a besoin de 1,5 milliard pour assister près de 6 millions de Syriens cette année. Les gens qui sont déplacés dans la Syrie et les réfugiés dans le Liban, l'Irak, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie.
Au bout de 5 ans, est-ce qu'il y a eu un changement dans l'aide que le PAM apporte aux Syriens?
Non, on a toujours reçu l'aide. Le problème, c'est que le chiffre du nombre des personnes qui ont besoin de l'assistance s'élève et le support qu'on reçoit de la communauté donateur n'est pas suffisant.
Quels sont les besoins actuels de la population syrienne? Est-ce que ces besoins sont les mêmes qu'il y a 5 ans?
Maintenant, on a 6 millions de personnes, alors 4 millions dans la Syrie. Ça, c'est notre but chaque mois. Alors, 4 millions dans la Syrie, déplacés dans la Syrie, qui ont besoin de la nourriture chaque mois, et presque de 2 millions réfugiés dans les pays voisins qui sont aussi besoin de l'assistance. Dans la région, on assiste les réfugiés par une carte bancaire électronique. Chaque mois, ils reçoivent la monnaie, et il va dans les supermarchés dans le Liban ou dans la Jordanie et il achète tout ce qu'il veut.
En dehors du soutien financier, qu'attendez-vous d'autre de la part de la communauté internationale?
La solution ultime, c'est une solution politique dans la Syrie pour arrêter la guerre. Ça, c'est la solution. Dans ce moment-là, on doit assister les gens qui sont dedans la Syrie, qui vivent pendant la guerre et qui ont besoin de la nourriture, ou les réfugiés qui ont perdu leur maison, leur voiture, leur monnaie.
Quelles sont les autres priorités du PAM maintenant que la crise entre dans sa cinquième année?
La priorité est de continuer notre programme, notre assistance, pour les familles qui ont besoin de cette nourriture le plus.
Comment détectez-vous les gens les plus vulnérables?
Dans la région, sauf dans la Syrie, on fait des études dans les camps des réfugiés, où on a des organisations partenaires. On fait des études et on visite les familles et on coordonne avec la HCR, avec toutes les organisations humanitaires qui travaillent avec les réfugiés, avec les Syriens, pour savoir.
Fréquence Santé.
Il faut investir pour venir à bout des maladies tropicales négligées, c'est le message que donne l'Organisation mondiale de la santé dans son dernier rapport sur la question. Pour en savoir plus, Isabelle Dupuis a joint le docteur Jean Janin, expert en maladies tropicales négligées de l'OMS.
Au fond, le terme négligé se réfère plus volontiers aux populations qui sont concernées, mais également du fait que ces maladies touchaient des gens qui vivaient très très loin. C'est des maladies également qui ont peu de capacité à s'étendre dans les pays les plus riches. Donc tout ça fait qu'il n'y avait quasiment pas, pendant des années, de recherche pour avoir des nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, de nouvelles façons de combattre ces maladies. Donc on est bien dans un spectre général de négligence.
Donc l'OMS vient de publier un rapport qui met l'accent sur l'importance de l'investissement pour enrayer ces maladies. Quelles en sont les principales conclusions et recommandations?
C'est la première fois qu'au fond, on a essayé de chiffrer un petit peu les investissements qui seraient nécessaires pour arriver au bout. En sachant que le rapport que nous avons publié il y a maintenant un peu plus de 2 ans se référait aux objectifs de l'OMS pour les maladies tropicales négligées pour 2015 et 2020. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on a une feuille de route avec des objectifs précis et une partie du rapport de cette année avait pour but de fournir un certain nombre d'éléments économiques pour la réflexion des donateurs et des gens qui nous supportent.
Donc est-ce que le rapport fournit au gouvernement une idée du pourcentage de leur budget qu'ils devraient consacrer par exemple à la lutte contre ces maladies?
Alors la première chose c'est toujours bien sûr d'encourager les pays dans lesquels ces maladies font le plus de dégâts, d'essayer d'investir plus. Deuxièmement, le but est également de fournir à la communauté internationale un ordre de grandeur des sommes qui pourraient être générées pour pouvoir accomplir tout ça.
Et a-t-on une idée de l'impact économique de ces maladies sur les économies locales?
Pas pour toutes les maladies, c'est quelque chose qui est très compliqué. D'abord parce qu'on a une variété importante de maladies, mais il faut savoir qu'il y a un impact qui est très très important sur un certain nombre de facteurs. Il y a des impacts sur l'économie locale et familiale qui sont très très importants. Vous imaginez bien que dans beaucoup de pays, lorsqu'un chef de famille, agriculteur ou autre, contracte une de ces maladies, souvent mortelles, la famille entière va être déstructurée. C'est des maladies dans lesquelles on a souvent une implication animale également, donc ça a un impact qui est relativement important. Ces maladies font empirer également l'impact sur les enfants, beaucoup sur les femmes. Donc il y a tout un éventail d'impacts à la fois personnels, familiaux, régionaux et puis internationaux. Donc plus les populations et les personnes sont fragiles, plus l'impact économique bien sûr est important.
Et outre le financement dans la recherche et le traitement de ces maladies, quels sont certains des autres défis que les gouvernements et communautés doivent relever pour les enrayer efficacement?
Écoutez, il y a toujours 2 choses parce que la recherche c'est au fond ce qui parfois est le plus visible, mais c'est pas tout non plus. Ce qui est important, c'est d'avoir au niveau local des capacités de mettre en œuvre des stratégies et de prendre en charge les personnes finalement. Donc c'est un tout finalement, mais il est bien évident qu'il n'y a pas d'outil magique finalement et que la recherche nous fournira jamais un outil miracle. Et par conséquent, même si la recherche, et ça c'est fondamental, nous apporte des outils qui facilitent le travail, il faut que ce travail soit fait. Et il faut que ce travail soit fait au contact de ces populations qui sont les plus démunies et les plus éloignées. Le challenge est là, c'est aussi dans la mise en œuvre. Et c'est vrai que généralement la mise en œuvre est considérée parfois avec un peu moins d'intérêt que la recherche.
Et c'est avec le docteur Jean Janin que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.